avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même, disait le journaliste et député Charles de Montalembert au XIXe siècle. Ce n'est pas un grand mot, quatre syllabes, mais il est capable de susciter autant d'enthousiasme que d'espoir déçu. Capable de faire descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes pour fêter la victoire ou contester une décision. Les gouvernements qui se succèdent se heurtent tous au cours de leur mandat à un procès en impuissance, voire en incompétence, quel que soit le courant qu'ils représentent. À l'heure du « et moi, et moi, et moi », il devient de plus en plus difficile de faire société ensemble. Pourtant, il a raison, Charles de Montalembert, la politique s'occupe de nous, du maire d'une commune rurale qui se bat pour obtenir la fibre à l'adoption de la loi sur la fin de vie. Il est large, le spectre. La politique peut-elle changer la vie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Mais comme tous les jours, avant le débat, on ouvre l'émission avec un consoeur, avec une consoeur ou un confrère de la presse écrite pour prendre la température du monde. Et c'est vous aujourd'hui, Dominique Grenier, bonjour.
Oui, bonjour.
Rédacteur en chef du journal La Croix. Et qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui dans vos pages en ce lundi 26 juillet ?
Vous parlez de température du monde, nous on est allé du côté des États-Unis avec ces incendies qui marquent la côte ouest, hein, des gigantesques incendies qui ravagent la partie ouest des États-Unis, du nord au sud des montagnes rocheuses. Et on a un incendie en cours en Californie depuis la mi-juillet, là, qui a déjà détruit plus d'1,4 million d'hectares. Hein. Donc c'est vraiment des gigantesques.
Vous le rappelez, hein, il y a aussi des incendies et en Grèce en ce moment, en Turquie, on en a vu également en Espagne. Et vous êtes revenu sur l'incendie le plus meurtrier que la Californie ait connu. C'était Camp Fire, hein, et sur 27 000 habitants que comptait la commune de Paradise, seules 6 000 personnes sont revenues.
Voilà, donc c'est un incendie qui avait détruit 90% des habitats. Hein. Il y a 86 personnes qui sont mortes dans cet incendie. Et voilà, la question, c'est la reconstruction. Et en fait, c'est impossible pour la plupart des gens de la classe moyenne, hein, qui habitaient une petite ville, voilà, de reconstruire. Donc sur les 27 000 habitants, il y a 6 000 personnes qui sont revenues, il n'y a que 3 000 maisons qui ont été reconstruites là sur les 11 000 qui ont été détruites. En fait, les gens se heurtent à l'impossibilité de reconstruire à cause des coûts de la construction. Et c'est très difficile aussi de se réinstaller, même si on ne veut pas être propriétaire, puisque les loyers ont augmenté sur les quelques logements qui restent.
Oui, puis, c'est un peu ce que vous racontez dans l'article, c'est qu'il y a une sorte de double peine, c'est-à-dire que non seulement les maisons ont été détruites, mais pour se reloger, c'est devenu la croix et la bannière, puisque les prix ont doublé, ouais. Les prix de location ont doublé selon le sacro-saint fonctionnement capitalisme de l'offre et de la demande, finalement.
Oui, et puis ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui se sont un peu éloignés des grands centres urbains pour justement, donc c'est aussi des zones plus reculées, qui sont plus difficiles d'accès, où les loyers sont moins chers. Donc ce sont les classes moyennes qui se trouvent aujourd'hui prises un peu au piège, hein, puisqu'ils se sont éloignés des grands centres pour pouvoir vivre correctement. Et là, ils se retrouvent rattrapés par la hausse des loyers, la hausse du foncier. Et puis, ce qui pose la question, hein, ce sont des populations qui se sont un peu éloignées des grands centres, mais qui sont aussi dans des zones qui sont beaucoup plus propices aux incendies. Donc ce sont les populations s'exposent aussi en s'éloignant des grands centres. Donc voilà, il y a une espèce de cercle infernal. Et donc un des enjeux aujourd'hui, bien, c'est quand même de reconstruire malgré tout, et puis d'essayer d'empêcher que des incendies causent les mêmes dégâts, hein, humains ou matériels.
Parce que la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'il va y avoir un incendie, mais plutôt où l'incendie va-t-il se déclarer ?
Voilà, c'est ce que disent les gens sur place, hein, la situation climatique, hein, et puis la situation de sécheresse qui date qui deux décennies de sécheresse, et donc avec des sols qui sont vraiment très très secs. Donc on sait que des incendies, la Californie ne peut pas faire sans ces incendies. Et donc la question, c'est où ça va se passer, et puis surtout, voilà, si un incendie est provoqué aux portes de la ville, comment éviter les dégâts humains. Donc il y a justement la petite ville de Paradise où nous sommes retournés, voilà, essaye de reconstruire, d'envisager son avenir en imaginant une ceinture verte, donc avec tout un programme foncier de rachat de parcelles pour pouvoir protéger avec une zone tampon le centre-ville, bon, avec aussi des normes de sécurité qui augmentent, et notamment d'éviter des constructions en toit en bois. Voilà, ça semble assez évident, mais ce sont des normes qu'il faut imposer.
Bon, il y a de nouvelles constructions, en effet, où les toits en bois sont notamment proscrits et les structures doivent être fabriquées dans une matière plus résistante que le bois, comme le métal, notamment.
Voilà, c'est ça. Donc, on voit bien l'enjeu. On peut pas écarter la possibilité d'un incendie, donc c'est éviter que tout parte d'un seul coup, et puis surtout que éviter des victimes humaines pour que les gens puissent se réfugier quelque part. En tout cas, voilà, une situation d'une ville qui est affrontée à ce défi du climatique, et puis qui doit gérer la question du logement dans une petite ville américaine, voilà, où la population est en augmentation.
Et il n'y a pas que les incendies, et c'est comme ça que vous concluez d'ailleurs ce reportage, parce que quand ce ne sont pas les incendies, hein, dit un habitant de la Californie, ce sont les tornades, ce sont les pluies diluviennes, ce sont les températures extrêmes. Les Californiens sont vraiment confrontés aujourd'hui au changement climatique.
Voilà, ils sont au changement climatique et on le voit, ce qui est assez étonnant aussi, y compris dans les incendies qui provoquent leur propre climat. Les incendies gigantesques provoquent ce qu'ils appellent des nuages, des pyrocumulus qui accélèrent la violence des vents, qui accélèrent la dégradation du climat et qui attisent les foyers en retour. Donc c'est vraiment un cercle infernal. Et voici donc que la Californie doit faire face à tous ces défis climatiques. Voilà, et l'objectif, c'est comment on protège finalement les populations à défaut de pouvoir empêcher les gens de s'installer dans des zones un peu éloignées des grands centres.
Eh bien, merci Dominique Grainer. Le retour sur l'incendie de Paradise, 3 ans après les faits, c'est à retrouver dans le journal La Croix de ce lundi 2 août.
C'est beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va parler que de la victoire. On a gagné ce combat. Quand on pense à tout ce qu'on a vécu, quand on pense aux gens qui disent si vous ne voulez pas ce travail, rentrez chez vous. Et nous on leur disait qu'on est dans un pays de droit et qu'on sait qu'en France il faut lutter. Pour avoir ces droits, il faut lutter. Donc nous avons lutté aujourd'hui, nous avons tout obtenu. Et vraiment, franchement, quand nous allons reprendre le boulot, nous allons travailler dans la dignité et dans le respect.
Le témoignage de Rachel Keke, qui était la représentante des femmes de ménage en lutte contre l'un des plus grands groupes hôteliers du monde. Rachel Keke, que nous attendons d'un instant à l'autre dans le studio de France Inter, qui doit arriver, j'espère, assez rapidement. La politique peut-elle changer la vie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, donc avec Rachel Keke. Également Magali Della Souda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS, spécialiste des nouvelles formes d'engagement politique. En studio à France Inter, Ludiville Bontini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et spécialiste de l'engagement politique, de la conscience historique et de la jeunesse. Et Guillaume Gourgues, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à Lyon. Vous aussi, évidemment, spécialiste de la participation publique et de la démocratie participative. Je le disais en préambule, les gouvernements qui se succèdent, Guillaume Gourgues, sont tous, à un moment donné ou un autre de leur mandat, font tous face à un procès en impuissance. Pourquoi cette fatalité ?
Cette fatalité, elle est liée à, je pense, des constats récurrents qui reviennent, qui sont pas du tout nouveaux, qui est que, en gros, on observe un décalage de plus en plus prononcé entre des séquences électorales où on promet évidemment monts et merveilles, dans des buts stratégiques assez évidents, et puis la réalité, on va dire, de l'action publique, qui est, on va dire, difficile à percevoir quand on n'est pas le nez, en fait, dans la conduite des politiques publiques. Et du coup, ce décalage-là, il existe et il est rarement assumé en tant que tel, c'est-à-dire que les responsables politiques continuent souvent de jouer les matamores en promettant des réformes, des grands changements, alors qu'en réalité, il est souvent extrêmement difficile de produire de l'action publique qui ait un sens, dont les gens perçoivent un peu les effets au quotidien, et très souvent, les réformes qui sont les plus à l'œuvre, ou en tout cas les plus immédiatement perceptibles, Et là, ce sont des réformes qui touchent au contrôle des libertés publiques, qui touchent à la réduction des dépenses publiques et donc à la réduction, par exemple, de l'accès aux aides ou de l'accès aux droits. Et donc, ce sentiment d'impuissance, il est, en tout cas, le sentiment que finalement les élus et la démocratie représentative ne peut pas ou ne veut pas changer la vie. Et ben, en fait, ils se renforcent et ils ne cessent de s'enraciner dans la société.
Alors, pas seulement, parce qu'on a aussi par exemple des maires qui se battent pour apporter la fibre dans des communes rurales, on a les 35 heures, il y a aussi des lois emblématiques ou alors beaucoup plus petites qui sont votées et qui concernent les citoyens dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, Magali Della Souda.
Oui, tout à fait, mais je rejoins ce qu'a dit Guillaume sur ce constat-là. Alors, vous prenez l'exemple des maires qui veulent se battre pour la fibre, mais en même temps, on a la 5G qui démonétise ce type de technologie et lui fait concurrence de manière moins efficace au passage. Donc, c'est aussi peut-être cette impression-là. Et dans les mobilisations récentes, et je pense aux Gilets jaunes auprès desquels on travaille depuis presque 3 ans, il y avait vraiment cette très forte demande d'une meilleure écoute et d'une meilleure prise en compte des demandes de justice dans plusieurs sens du terme qui n'ont pas été complètement satisfaites.
Est-ce qu'on... Oui, pardon, je ne coupe pas.
Allez-y. Pour rejoindre aussi ce qu'a dit Guillaume, c'est quand il y a eu des dispositifs participatifs qui ont été mis en place, comme les cahiers de doléances ou la convention citoyenne ou le grand débat, eh bien, les mesures qui ont été proposées par les citoyennes et citoyens ou dans les contributions n'ont pas été reprises, loin s'en faut, et cela a été parfaitement assumé par le gouvernement. Donc on a bien ici un hiatus entre les attentes des citoyennes et citoyens et la prise en compte de ces attentes par les institutions et politiques publiques.
On peut aussi se poser la question différemment, Ludivine Bantini, en se demandant si on n'attend pas trop du politique, parce que notre passé finalement est jalonné de grandes figures, de Napoléon à De Gaulle, en passant par François Mitterrand, qui voulait changer la vie en 1981, puisque c'était le slogan de son programme. Est-ce qu'on n'attend pas trop des politiques?
Alors je pense qu'il ne faut vraiment pas réduire la chose politique à ces figures politiques, ou à ce que vous appelez les politiques, les responsables politiques. C'est intéressant que vous associez, d'ailleurs qu'on associe peut-être un peu trop... l'expression « changer la vie » à François Mitterrand et au Parti Socialiste, parce qu'avant tout, c'était les mots de Rimbaud. Et c'est pas anodin que Rimbaud les utilisait à propos de la Commune de Paris. Et il disait « les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles ». Et pour lui, la Commune de Paris, c'était des protagonistes qui étaient des hommes et des femmes ordinaires, des hommes et des femmes du peuple, des ouvriers, des employés, des instituteurs et institutrices, etc., qui avaient décidé d'inventer une forme nouvelle de démocratie, une forme de démocratie directe. Et je prends l'exemple de la Commune parce que précisément la chose politique c'est notre vie. Avant de, voilà, enfin, de dire changer la vie, c'est notre vie quotidienne. Quand je suis arrivée tout à l'heure à la maison de la radio, la personne à l'accueil avec qui j'ai échangé quelques mots m'a dit « Ah mais la politique, c'est notre ordinaire et on ne peut pas se la faire subtiliser en quelque sorte par des professionnels de la politique. » Et donc ça, c'est très important. Bon, dans les sciences sociales, on a distingué la politique et le politique. Le politique à entendre au sens de bien commun, de l'idée de faire cité, etc. Mais de toute façon, je pense que c'est essentiel. Magali Della Souda vient de rappeler à propos des Gilets jaunes que ça a été une manière de s'auto-organiser dans des assemblées, dans des lieux qui étaient désertés, qui n'étaient pas des lieux véritablement humains, les ronds-points, des lieux de circulation, des lieux de passage qu'on a rendus politiques justement en réclamant plus de justice sociale, en revendiquant aussi une autre forme de démocratie. Donc là, il y a des formes en effet qui s'inventent, les fameuses formes nouvelles dont parlait Rimbaud, et ça pose aussi, me semble-t-il, la question des espaces. Parce que quand on se réfère au terme de polis grecque, la cité, voilà, ce sont des agora, ce sont des lieux où on peut échanger, débattre et décider collectivement. Et ça, peut-être que ça nous manque fondamentalement et que ce manque d'espace politique, qui ne serait pas réduit justement aux institutions, aux assemblées, au gouvernement, ce manque d'espace politique abîme peut-être en partie la démocratie.
C'est un mot piège, en tout cas, ces 4 syllabes de toutes petites, finalement, qui peuvent charrier à la fois les idéaux les plus nobles, mais aussi, Guillaume Gourgues, les espoirs déçus.
Oui, les espoirs déçus. En même temps, l'histoire politique de la démocratie ou de la mise en démocratie des sociétés, elle repose toujours sur une tension entre le désir d'ordre de ceux qui gouvernent et l'intervention populaire dans les affaires publiques. Et depuis au moins la fin du XIXe siècle, il y a cette idée que finalement, la démocratie telle que se l'imagine ceux qui gouvernent, eh bien, c'est un système ordonné où finalement le temps du débat, comme le disait Ludivine Bantini, eh bien, il va se réduire à des espaces institutionnels octroyés, on va dire. Alors on pense évidemment aux élections, mais aujourd'hui on pourrait penser, comme l'a dit Magali, à la manière dont les dispositifs participatifs, que ce soit le grand débat, que ce soit la convention citoyenne, sont un peu aussi octroyés. On autorise les gens à participer dans des espaces cadrés, dans des espaces administrés, dans des espaces qui de toute façon sont là pour produire du consentement et de l'ordre. Et puis d'un autre côté, un mouvement beaucoup plus insurrectionnel, beaucoup plus indomptable, beaucoup plus difficile à décrypter aussi politiquement, qui lui aussi s'appelle le mouvement de la démocratie. Et ça, cette tension, en fait, on est aujourd'hui, me semble-t-il, au cœur de cette tension entre des formes administrées, policées et contrôlées de participation démocratique, et puis des formes beaucoup plus sauvages, qui vont potentiellement aussi bousculer ces formes administrées de participation et faire exister finalement un désir d'indépendance, ou en tout cas une espèce de posture générale de ceux qui s'engagent dans une recherche d'autodétermination collective qui ne passe pas forcément par des mécanismes consistant à remettre une délégation, remettre le pouvoir à ceux qui le demandent ou à ceux qui le veulent. Et ça, cette tension entre ordre et désordre, elle est consubstantielle à la démocratie. Et aujourd'hui, on voit à quel point cette participation ordonnée et, on va dire, cette espèce d'idée que les citoyens et les citoyennes participeront quand on leur dira et participeront comme on leur dira, et ben aujourd'hui, elle a du mal à exister. Et on est confronté vraiment à une situation dans laquelle les bureaux de vote sont désertés dans des proportions qu'on n'avait jamais connues. Alors, bien sûr, ça fait un moment, mais on n'avait jamais connu quand même à ce point-là. Et d'un autre côté, tout un tas d'indicateurs que les gens ne désertent pas quand même l'arène politique au sens de effectivement le politique, quoi, de la capacité collective à déterminer là où nous allons et ce que nous voulons et ce que nous partageons en commun.
Est-ce que ce l'écart se creuse encore plus entre ce que vous appelez, selon vous, la politique ordonnée et la politique, disons, plus désordonnée, comme vous venez de l'expliquer, Guillaume Gourgues? Est-ce que le fossé se creuse?
L'écart se creuse. C'est difficile à diagnostiquer toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Ce que je constate, en tout cas, c'est que cette participation ordonnée crée tellement de frustration et crée tellement de désillusions qu'elle finit par paradoxalement conduire celles et ceux qui s'y étaient engagés à des formes, si ce n'est de frustration, enfin en tout cas de défiance, en tout cas de constats un peu amers. Et ça, c'est pas nouveau dans les dispositifs participatifs. Mais on va dire que, par exemple, les 150 citoyens tirés au sort lors de la convention citoyenne ont eu des mots extrêmement durs quand il s'est agi de caractériser la trajectoire de leurs propositions, la manière dont les institutions et le pouvoir en place s'est rendu un peu volontairement sourd à certaines revendications qui pourtant avaient fait l'objet d'une longue délibération et d'une certaine forme de consensus autour d'elle. Et du coup, à force de produire des formes de participation administrées qui ne vont nulle part, ou en tout cas qui d'un point de vue décisionnel et d'un point de vue de la délibération collective et des décisions publiques n'offrent aucune perspective réelle de fonctionnement alternatif des institutions, et bien forcément on ancre dans la société l'idée selon laquelle quand on veut être écouté, on doit passer par des formes, on va dire, un peu plus radicales de mise en démocratie de la société. Et puis aussi, on génère une forme d'apathie et une forme de désillusion permanente, qu'on avait mesuré avec des collègues quand on était allé poser la question, finalement, du rapport des gens à la démocratie. On avait vraiment été frappé par l'ampleur des discours de résignation, alors qui débouchent pas tous sur les mêmes solutions face à cette résignation. Mais on peut créer des choses assez délétères d'un point de vue social à force de produire des formes de participation qui tourne à vide.
La politique peut-elle encore changer la vie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi. Un débat qui continue en musique. Il est midi 23 et vous êtes bien sur France Inter. Bel été à vous. Where your crown is.
like a human, yeah. Party like a human. Party like a human, yeah. Party like a human.
L'électropop des Frenchies de General Electric, Party Like a Human, et toute la programmation musicale est à retrouver sur le net.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Quatre invités aujourd'hui pour s'intéresser à la question, à cette question, la politique change-t-elle encore la vie? Guillaume Gourgue, qui est maître de conférences en sciences politiques, Ludivine Bantini, qui est historienne, Magali Della Souda, qui est chercheuse au CNRS, et puis Rachel Keke, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint en cours d'émission. Vous êtes gouvernante, on dit gouvernante d'ailleurs, à l'hôtel Ibis Batignolles. Vous avez mené un grand combat qui a duré 22 mois avant d'obtenir enfin satisfaction. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez décidé de commencer ce combat? Parce que quand on est une vingtaine de femmes de chambre et qu'on se dit tiens, on va mener un combat contre l'un des plus grands groupes hôteliers du monde, il faut quand même avoir beaucoup de courage.
Mais gouvernante, c'est la responsable,
nom, hein.
Voilà, c'est la responsable des femmes de chambre, parce qu'elle a un droit sur les femmes de chambre. C'est-à-dire que quand la femme de chambre fait son travail, la gouvernante elle passe derrière. Elle essaie de vérifier le travail de la femme de chambre. Et quand le travail de la femme de chambre est bien fait, elle passe la chambre à la réception et la réception fait louer la chambre au client. Sans le OK de la gouvernante, le client ne peut pas louer la chambre.
Et ça, c'est votre métier?
Voilà, ça, c'est mon métier. Exactement. Mais 22 mois, ça n'a pas été facile. On était 19 femmes et un homme. Donc, 22 mois, c'est pas facile face au groupe Accor. Parce que le groupe Accor, quand même, c'est le premier en Europe et le sixième mondial. Le syndicaliste nous avait prévenu, c'est-à-dire la CGTHPE, pour nous dire, vous savez, le groupe Accor, c'est un grand groupe. C'est pas un groupe qui lâche facilement. Et est-ce que vous êtes prêts à l'affronter? Donc, on était déjà préparés. Donc, on savait déjà, quand on partait, comme dit Macron, en guerre, on savait qui on avait en face. On savait déjà nos ennemis. On connaissait déjà leurs intentions par rapport à la CGTHPE. Donc, on a tenu, on a lutté, vu nos conditions de travail qui étaient vraiment dégradées, qui étaient vraiment très dures pour nous. Vous savez, le métier des femmes de chambre, c'est un métier qui abîme le corps des femmes. C'est un métier qui détruit. C'est un métier où la femme perd la dignité. un métier où il y a des harcèlements moraux, des harcèlements sexuels. C'est un métier où la vie, c'est-à-dire la vie de la femme est complètement bafouée. Donc nous, franchement, ce métier qui nous a rendu quand même malade, il y avait 13 personnes, 13 de mes collègues qui étaient en instruction maladie.
Est-ce que vous demandiez, c'était finalement pas grand-chose au regard de ce grand groupe international, c'est-à-dire de faire trois chambres et non trois chambres et demie, hein, on aime la précision, le et demie en une heure, et c'est l'obtention d'un panier repas.
Oui, parce que quand même trois chambres et demie, dans une chambre il n'y a pas de demi. Donc quand même, tout ce qu'on demandait, et ce qu'on a obtenu, c'est de 250 à 500 euros. C'est rien devant le groupe Accor. Le groupe Accor, qui sont des milliardaires, qui ont des hôtels partout dans le monde. Mais ce somme qu'on demande, c'est pas grande chose. Donc, on n'a pas compris pourquoi ils ont pourri cette lutte jusqu'en 22 mois. Croyant que, mais moi, je dis, c'est parce qu'ils savent qu'on est des Noirs, on est des immigrés, il faut le dire. Et qu'ils se disent que, bon, par exemple, on ne connaît pas nos droits et qu'ils profitent. Mais là, ils se sont trompés.
Vous êtes naturalisée française depuis un certain temps, par ailleurs.
Depuis 2015.
On vous a vu beaucoup sur les écrans de télévision, alors évidemment manifester, mais aussi faire la fête. C'est-à-dire que c'était très festif, vos rassemblements. On tape sur des casseroles, il y a des musiciens. Votre mari a d'ailleurs fait une chanson. Frotter, frotter, on va gagner. Frotter, frotter, on a gagné, il faut payer.
Oui.
Ça s'est passé dans une ambiance très festive.
Oui, parce que on s'est dit. Le combat qu'on menait contre le groupe Accor n'était pas facile. Si on était, parce que quand même on était à l'intérieur de l'hôtel, et le groupe Accor nous a menés devant le tribunal, et le tribunal nous a retirés dehors. Donc on était tout complètement dehors avec le froid, la pluie. Donc on s'est dit, pour avoir le moral, pour continuer cette lutte, mais il faut mettre de la musique. Donc la musique qui fait du bien, qui donne la force, qui donne de l'énergie face à l'ennemi.
Ludivine Bantini, vous nous expliquiez en début d'émission qu'il ne fallait pas confondre la politique au sens général et les politiques comme tous ces mouvements qui sont menés, comme celui notamment de Rachel Keke. On a là l'illustration très claire de ce que vous nous disiez en préambule.
Oui, moi, je suis très heureuse de la présence de Rachel parce que c'est vrai que c'est une lutte qui dit la chose politique, justement. Et c'est au cœur du sujet sur le fait que se battre pour ses droits. Et donc pour une reconnaissance, il y a une dimension matérielle, il y a une dimension de dignité, il y a une dimension de respect, comme l'explique Rachel et ses collègues de l'hôtel, hein, ses collègues en lutte. La dimension festive, c'est important de la souligner parce que en fait, justement, il y a une joie dans ces moments politiques là où on sent qu'il y a de la force. On parle de plus en plus d'empowerment, c'est de manière de se rendre plus puissant par le collectif, par le fait de relever la tête, par le fait de se sentir justement dans une organisation ensemble, dans un rapport de force aussi, mais qu'on peut se réapproprier parce que souvent, justement, ça a été décrit tout à l'heure par Guillaume Gourgue, il y a l'idée qu'il y a une désillusion, il y a un désenchantement, et là, dans ce genre de moment, eh bien, on reprend courage, on reprend confiance, par aidant le collectif, par aidant l'auto. Organisation. C'est ce qu'elles ont fait, les femmes de chambre de cet hôtel. Et d'ailleurs, dans une sorte de séquence de lutte dans les hôtels, hein, puisque je me souviens aussi d'une longue lutte des femmes de chambre à l'hôtel Holiday Inn de Clichy, par exemple, où le froid, la pluie, la neige, il y avait un piquet de grève et beaucoup de discussions. La politique, c'est aussi du débat, c'est vraiment de la discussion et de l'auto. Enfin, ce préfixe de auto-organisation, autogestion, c'est fondamental pour définir cette réappropriation de la politique.
Magali Della-Souda.
Oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voulais peut-être ajouter quelque chose dans ces renouvellements des formes d'engagement qu'on observe et par rapport à ce qu'a dit Rachel Keke et ce qu'a dit Ludivine sur la joie, la musique. Ce qu'on a pu constater dans des mouvements protestataires récents comme celui des Gilets jaunes, ça a été au moins au début du mouvement des danses, des chants, une manière d'exprimer des revendications sur un mode extrêmement ludique, des mascarades qu'on avait perdues dans des types de mobilisations plus encadrées, des cortèges syndicaux, ou des mobilisations sectorielles. Et donc ça participe de ce renouvellement des formes de contestation en dehors des institutions.
Ce que vous avez constaté aussi, puisque vous avez beaucoup travaillé sur justement le mouvement des Gilets jaunes, c'est la grande diversité sociologique qui existait beaucoup moins dans les précédentes mobilisations, en tout cas les mobilisations historiques qu'on avait l'habitude de voir en France.
Oui, alors ça c'est en partie logique, puisque quand on a des mobilisations sectorielles ou sur des types d'enjeux précis, on a forcément un public participant qui va être lié à ces enjeux-là. Alors il peut y avoir une forme de solidarité et donc des personnes qui ne sont pas directement concernées ou affectées par une mesure, mais qui vont se sentir préoccupées et être en empathie et descendre dans la rue pour participer au mouvement. Mais ce qui était singulier avec cette mobilisation des Gilets jaunes, c'est qu'effectivement au départ on avait une revendication sur une taxe sur les carburants qui très vite s'est élargie à d'autres types de revendications, et on a vu converger des profils hétérogènes tout en restant fortement ancrés dans les classes populaires, les classes laborieuses ou celles qui voudraient travailler mais ne peuvent pas vivre de leur travail. Et donc on a eu sur un même rond-point un petit patron et son salarié, on a eu des retraités et des actifs, on a eu des jeunes et des personnes âgées, et des hommes et des femmes. C'est un mouvement très mixte.
Et pour reprendre la dernière manifestation que nous avons pu voir en France, c'est celle de samedi dernier contre le pass sanitaire, où là, cette fois, c'est une diversité de courants politiques. Guillaume Gourgues, on a à la fois des sympathisants, notamment de la France Insoumise, mais aussi du Rassemblement National qui manifestent dans le même cortège.
Oui, alors c'est pour le coup, est-ce que c'est vraiment une nouveauté par rapport à ce qu'on avait observé dans certaines séquences et puis dans certains territoires aussi, parce que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été aussi homogène qu'il a tendance à être présenté. Donc là, on est sur des mobilisations, on va dire hétérogènes, mais qui reflètent aussi ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que des gens avec des orientations politiques extrêmement différentes, voire antagonistes, parce que je pense que même au sein des cortèges, tout le monde n'est pas d'accord sur un certain nombre d'éléments, mais il y a vraiment cette sensation d'être confronté à une espèce de mur décisionnel qui fait qu'on arrive, par ce mécanisme, à créer des convergences tout à fait surprenante. Et par exemple, si on prend le pass sanitaire, moi ce qui m'a beaucoup impressionné dans l'annonce du pass sanitaire, c'est la manière dont il paraît qu'on a tiré 35 citoyens au sort au mois de février 2021 pour les faire participer à la définition, ou en tout cas une forme de conseil, des stratégies vaccinales. Et à lundi soir, le président de la République annonce presque tout seul la mise en place d'un pass sanitaire, sans débat préalable, sans vraiment expliquer d'où circule cette proposition, sans vraiment qu'on comprenne finalement pourquoi le pass. Et d'ailleurs, les contre-pouvoirs institutionnels alertent, que ce soit la défenseur des droits, que ce soit le conseil économique et social, sur les problèmes que pose ce pass sanitaire. Et donc, encore une fois, on arrive sur un décalage où des citoyens tirés au sort, finalement, on ne leur demande pas leur avis sur une des principales mesures quand même qui va affecter la vie de tout le monde dans ce pays pour les prochains mois, voire les prochaines années. Et du coup, cette sensation que, encore une fois, la décision tombe et que finalement, face à ce mur de décision, eh bien, la seule solution, c'est de prendre la rue. Voilà. Mais du coup, je me permets juste de rajouter une chose. Moi, ce que dans le récit très très bref que nous a fait Rachel Keke et dans l'histoire de l'Ibis Batignol, ce qui est aussi très très intéressant, c'est de voir que au-delà de l'Ibis et au-delà, quand on regarde les lieux de travail et quand on regarde les conflits sociaux dans les entreprises, on voit que, par exemple, les centrales syndicales elles-mêmes sont dépassées par les formes de conflictualité qui prennent place dans les entreprises. Et ça aussi, c'est des signes vraiment passionnant de reprise en fait de reprise en main du politique et du destin commun par des salariés qui sont souvent des salariés très peu qualifiés, extrêmement mal payés, qui travaillent dans des conditions très difficiles ou qui sont confrontés à un arbitraire du licenciement économique contre lesquels ils ne baissent pas les bras. Et je pense que c'est très important aussi pour les groupes représentatifs et les organisations représentatives que sont par ailleurs les syndicats d'entendre et de comprendre ce qui se passe dans cette reprise en main du politique. Et c'est ça aussi qu'on a tendance à avoir du mal à faire sur les mobilisations comme celle des Gilets jaunes ou celle actuellement sur le pass sanitaire, c'est à ne pas tomber dans la caricature, la disqualification de ces formes de mobilisation, de les prendre au sérieux pour comprendre aussi ce qu'elles nous disent sur ce qui ne va pas dans la manière d'organiser le débat public et le fonctionnement de la démocratie.
Rachel Guéquet, justement, quand vous avez commencé à manifester, est-ce que vous avez eu cette sensation d'être pris au sérieux, comme vient de le dire Guillaume Gourgues?
Au départ, non. Au départ, pas du tout. On n'a pas été franchement pris au sérieux parce que déjà, ils avaient, comme la SCN qui sous-traite au sein de l'hôtel Ibis Les Batignolles, qui représente notre société, avait dit que on n'était pas syndiqué avec la CGT Propété, qui est le syndicat de la SCN. Donc, quand on est parti vers la CGT HPE pour nous aider à trouver une solution pour nos travail, ils nous ont dit. Ils ont démoré, c'est-à-dire ils ont humilié la CGT HPE, disant qu'ils ne peuvent pas nous aider, que M. Claude Lévy était au tribunal, que ce n'était pas la peine qu'on partait envers la CGT HPE. Donc ils ont fait venir la CGT Propreté, leur syndicat, sur nos piquets de grève pour casser la grève. Ils appelaient même le mari des femmes chez eux à la maison pour ne pas continuer cette grève-là. Donc vous voyez, dans cette société, je pense que si le syndicalisme a été créé en France, c'est pour soutenir les gens qui sont exploités, les salariés exploités. Pas pour prendre des sommes d'argent pour mettre dans leur poche et soutenir l'exploitation avec les sociétés. C'est très grave. Moi, je dénonce ça, je parle de ça. Pourquoi ? Parce que si cette exploitation persiste et signe, c'est parce qu'il y a des CGT corrompus et il faut que ça cesse. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays et être avec des syndicats corrompus.
On se pose aujourd'hui la question de la politique peut-elle changer la vie dans ce débat de midi. Est-ce que vous avez pris conscience au fur et à mesure du combat du symbole que ces femmes de chambre, que de ménage que vous représentez ont réussi à... Voilà, le symbole que vous êtes devenu finalement en France.
Mais moi, je veux que la politique mette son nez dedans. Parce que quand je venais, j'ai vu la Tour Eiffel. Et là, il y a le Covid. Mais quand il n'y avait pas le Covid, quand il y a du monde à la Tour Eiffel, où les gens vont dormir? Ils vont bien dormir dans des hôtels. Et les hôtels, qui nettoient les hôtels? C'est nous qui nettoyons les hôtels. Et derrière ces hôtels, il y a la souffrance, il y a la misère et il y a de l'esclavagisme. Donc, il faut que les politiciens, parce que le groupe Accord fait partie du politique, on va pas se mentir dessus. Donc, la politique doit prendre, parce que comme on a été soutenu par des politiques, Ruffin, il était sur nos piquets à l'Assemblée. Ruffin parle de ce sujet. Et ils font comme s'ils n'attendent pas. Mais arrivé un moment, ça suffit. Parce que l'économie française, les femmes de chambre issues de l'immigration participent. Donc, c'est nous qui notons les hôtels. Il faut que les politiques prennent ça en main et que le groupe Accord essaie de revoir son contrat qu'il signe avec la sous-traitance. Puisque lui ne sait pas faire, et quand tu ne sais pas faire, tu essaies de revoir ton contrat avec la sous-traitance pour sortir de l'esclavagisme envers ses salariés.
Ludivine Mantini.
Oui, ce qui est très important aussi dans ce qui est souligné par Rachel Guéquet, c'est la question de la visibilité, en fait. Une lutte comme celle qu'elles ont menée, c'est une manière de rendre visible ce qui ne l'est pas habituellement, c'est-à-dire en particulier les conditions de travail les plus exploitées, pour reprendre le mot qu'a employé Rachel, hein, la question de l'exploitation elle est fondamentale en effet. Et puis il y a un mot qui a été employé tout à l'heure par Magali de la Souda qui me semble aussi très important dans toutes ces mobilisations, c'est le mot de solidarité. Hein, tout à l'heure on se disait que s'engager d'un point de vue politique mais au sens très large, hein, parce que ça peut être aussi une forme d'auto-organisation avec des syndicats, c'est ce qui ça a été le cas, Rachel l'a rappelé aussi dans cette lutte, avec peut-être des oppositions aussi entre les syndicats dans certaines mobilisations, comme la mobilisation très puissante contre la réforme des retraites. La place des syndicats, notamment à la base, dans l'auto-organisation à la base, elle est très importante. Et puis, il y a comme ça des espèces de transmissions d'un mouvement à l'autre. Parce que, par exemple, ce qu'on entendait chez les Gilets jaunes, la chanson « On est là », qui me paraît être un hymne justement très politique. On est là, se dire que voilà, on prend l'espace, on prend la place, l'espace politique, on ne veut pas le laisser vide ou le laisser occupé uniquement par, encore une fois, les professionnels de la politique. Ben, ça a été repris aussi dans certains cortèges de d'autres mobilisations. Donc la question des solidarités me paraît aussi fondamentale. Et justement, ce qui est intéressant là dans le contexte, c'est que on n'en parle pas assez, me semble-t-il, dans les médias un peu importants, des médias de masse, c'est ce que font les zapatistes au Mexique. Et il se trouve qu'il y a une délégation zapatiste qui arrive en France et en Europe, là, en ce moment même. Et les zapatistes, alors c'est une expérience très ponctuelle, hein, mais c'est une autre manière de voir la politique et qui rassemble un peu tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. La solidarité, la joie, l'auto-organisation, le fait de déprofessionnaliser la chose politique. Les zapatistes, ils sont auto-organisés dans une forme de démocratie directe, dans ce qu'ils appellent les formes de bon gouvernement, où chacune et chacun prend sa part justement au collectif, aux assemblées, à la décision collective. Alors évidemment, ça nous paraît très loin, c'est le Mexique, etc. Mais je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de ces expériences et qu'elle et ils viennent en Europe pour dialoguer justement avec des gilets jaunes, avec des personnes qui se mobilisent ici ou là, eh bien c'est une source justement de réflexion collective sur ce que peut être la politique dans une perspective émancipatrice.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, JM qui nous écrit « Un quinquennat est trop court pour changer les choses sur un plan global et plus on attend, plus les réformes sont dures à faire passer ». Hugues qui nous écrit sur l'appli de France Inter « Intéressant débat, mais concernant la France, je pense que la 5e République et ses institutions ont fait repousser la tête du roi. Le pouvoir de la présidence du président de la République est bien trop important et vertical. Je considère de fait que l'attelage de démocratie représentative est totalement bancal, d'où les violences ou les tensions que traverse notre pays, ou alors de façon inverse, le désintérêt pour beaucoup de la chose publique. » Et puis Olivier nous dit « Bonjour, la 5e République n'aggrave-t-elle pas les choses en personnalisant à l'extrême le décalage mentionné par vos invités et en poussant les candidats à toujours plus de promesses irréalistes, voire de démagogie pour obtenir la majorité ?» Guillaume Gourgue.
Alors, effectivement, on pourrait réouvrir, comme souvent, hein, le procès de la 5e République, notons que je partage en partie, hein, notamment sur la manière dont les institutions, hein, par exemple avec la réforme de 2008, la réforme constitutionnelle de 2008, on voit bien que les institutions tentent d'aménager les choses, puisque, on va dire, les gouvernants se rendent bien compte, hein, que les institutions ne donnent pas assez de réponses concrètes aux problèmes, on va dire, de débat public et de transparence des décisions et de délibération collective. Mais en même temps, on crée des dispositifs qu'on surveille tellement qu'ils finissent par ne servir à rien. Par exemple, le référendum d'initiative parlementaire, hein, le RIP, qui s'est voulu à un moment être, on va dire, le pendant du RIC, hein, qui était demandé au gilet jaune, et on a répondu au gilet jaune, il n'y a pas besoin du RIP puisqu'on a le RIP, le référendum d'initiative parlementaire, mais on voit bien que ce référendum d'initiative parlementaire, qui est bien aux mains des parlementaires, hein, quand même, il est tellement difficile à mettre en œuvre et tellement compliqué d'accès que finalement les juristes utilisent une expression que j'aime beaucoup, qui est celle d'un droit hochet, hein, c'est-à-dire un droit qu'on est très content d'avoir, hein, qu'on aime bien secouer, mais qui ne sert pas à grand-chose. Et du coup, il y a effectivement un problème de présidentialisation excessive des institutions de la 5e République. Je pense que ça, on a un consensus assez fort là-dessus. Par contre, l'équation entre une très grande méfiance vis-à-vis des institutions, une défiance citoyenne vis-à-vis de ceux qui gouvernent, celles et ceux qui gouvernent, et des formes plus radicales, plus spontanées, hein. Ludivine Pantini parlait du Mexique, mais on pourrait ne serait-ce que se promener en Europe pour aller voir des expériences dites communalistes, municipalistes ou de démocratie radicale un peu partout, il n'est pas propre à la France. Et on est bien sur des niveaux de défiance, on va dire, des citoyens vis-à-vis des institutions,
similaire,
qui sont un très grand nombre de pays.
La politique change-t-elle la vie? C'est la question qu'on se pose en ce lundi 2 août dans le débat de midi. On attend toujours vos réactions, vos commentaires, vos questions aussi sur le site ou sur l'appli de France Inter. Il est midi 47 et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner, est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire. Devant lui se tient un miroir, son reflet de bain. Tu ne sais plus dire si tu
laisse comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Mais c'est toi qui portes le drapeau. Regarde-le comme il est beau. Là, tout en tête du cortège, ton enfant qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire du temps où les oiseaux chantaient le soir. Relève-toi.
Elle aussi s'engage, on se souvient de sa tournée 100% écolo ou presque, où elle se déplaçait à cheval, s'éclairait à la bougie pour des concerts intimistes. Émilie Loiseau, et le titre c'est Renversé.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
La politique peut-elle changer la vie? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans ce débat de midi avec Guillaume Gourgues, qui est maître de conférences en sciences politiques, Lydivine Bantini, qui est historienne, Magali Della Souda, qui est chercheuse au CNRS, et Rachel Keke, qui est donc gouvernante, comme elle nous l'a expliqué, à l'hôtel Ibis Batignolles. Est-ce que cette lutte que vous avez menée pendant 22 mois vous a donné envie de continuer? Est-ce que vous allez maintenant faire partie soit d'une organisation, d'une association? Est-ce que vous allez continuer le combat, Rachel Keke?
Mais je continue le combat parce que il y a toujours des difficultés dans le travail, surtout dans ce pays. Il faut jamais baisser les bras parce que je me suis rendu compte que la lutte est payée. C'est pas en se taisant, en restant chez soi, que on peut rien gagner en restant chez soi. Il faut déclarer, il faut être dehors, il faut sortir, il faut dénoncer. C'est comme ça qu'on peut gagner. Donc moi, je continue ma lutte parce que, comme j'ai dit, ici, je suis ivoirienne. Mais en France, la France m'a beaucoup appris. Et la belle chose que la France m'a appris, c'est la lutte. C'est de lutter et avoir ses droits. Et être libre, quoi. Voilà. Donc, je continue. J'aimerais aussi dire qu'il faut que notre victoire donne des exemples à d'autres personnes. Parce qu'il y a quand même, quand on a fini une semaine après, il y a la mairie d'Ibis, les Batignolles, de Clichy, qui ont fait une semaine de grève et qui ont été internalisées. Grâce à notre lutte. Et les femmes de mairie d'Ivry aussi, qui travaillent à la crèche, à la cantine, qui ont pris exemple sur nous, qui ont fait 8 jours de grève et qui ont gagné aussi à 80% leurs revendications. Donc, notre lutte a beaucoup donné des exemples. Au moins 3-4 personnes, c'est déjà énorme. Donc, j'aimerais que ça continue, ça dure, ça... Les gens se réveillent, en fait. Les gens se réveillent parce qu'on a des droits en France. La France nous donne des droits. Donc, il faut sortir, il faut dénoncer les choses pour pouvoir avoir ses droits. C'est très important.
Elle donne des droits. Sans remettre en cause la démocratie pour l'instant, je lisais un sondage, Ludivine Bantini, de l'IFOP, du CEVIPOF, pardon, qui disait que 41% des sondés acquiesçaient à l'idée qu'en démocratie, rien n'avance et qu'il faudrait peut-être moins de démocratie, mais plus d'efficacité. 41% des sondés.
Oui, enfin, c'est assez accablant, mais je pense que c'est aussi la façon dont la démocratie est représentée Justement, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, et notamment avec cet échange au sujet des institutions de la Ve République, du présidentialisme, du désenchantement devant les promesses non tenues, etc. Donc, du coup, c'est une conception de la démocratie qui est elle-même affectée et abîmée par le fait que, voilà, enfin, c'est difficile de voir véritablement ces opinions représentées, etc. Donc, il y a cette tendance-là, c'est vrai, qui est très inquiétante, qui me semble correspondre aussi à une pente autoritaire que l'on peut constater aussi dans les manières même de gouverner. Ça fait écho à ce qu'on se disait sur les enjeux du pass sanitaire, etc. Enfin, voilà, il y a une forme d'autoritarisme qui crée aussi, facilite, favorise des tendances comme ça à la remise en cause de la démocratie. Et puis, à l'inverse, eh bien, il y a des tendances au contraire à se dire qu'il faut revitaliser, revivifier la démocratie. On a parlé d'auto-organisation à la base, on a parlé de communalisme, etc. Ça, c'est quand même très vivant, cette question de la démocratie directe. Je pense que c'est aussi lié à la question du temps, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'espace, voilà, qu'on manque en fait d'espace, de lieu pour se réunir, pour se rassembler, etc., pour discuter et décider. Mais il faut du temps aussi pour que la chose politique n'appartienne pas qu'aux professionnels de la politique. Ce que disait Rachel Keke à l'instant sur le fait qu'il faut sortir de chez soi, etc. Mais et je suis d'autant plus admirative justement de ces combats quand on est dans des conditions de travail si rudes, avec des journées de travail très longues. En fait, je pense que la démocratie, ça doit s'accompagner aussi d'une diminution du temps de travail pour consacrer aussi du temps au bien commun. Voilà, pour s'assembler, pour réfléchir ensemble, il faut du temps.
Inventer de nouvelles formes, vous dites, Magali Della Souda, puisque précisément vous travaillez sur les nouvelles formes d'engagement politique. Quelles sont ces nouvelles formes qui pourraient émerger aujourd'hui en France ?
Alors, à partir de l'enquête qu'on a menée auprès des Gilets jaunes, d'abord, il faut vraiment rappeler quelque chose, c'est qu'il y a une contestation du fonctionnement des institutions, de la personnalisation aussi, qui est palpable dans les revendications en termes de RIC, donc de possibilité d'avoir ce référendum, mais aussi éventuellement de révocation, alors avec beaucoup de débats au sein du mouvement. Et il y a aussi, donc il y a une mise en crise de la manière dont les institutions fonctionnent, mais ça ne veut pas dire qu'on remet en cause totalement le principe de démocratie représentative. En tout cas, dans les entretiens qu'on a menés, il y a un article qui a été publié là-dessus. Donc c'est et ça coexiste avec effectivement d'autres formes de démocratie qui sont expérimentées dans les assemblées des assemblées au niveau du mouvement, mais qui sont aussi expérimentées localement en dehors des institutions. Et ça, c'est intéressant. Parmi les expériences que nous, on avait notées comme étant significatives de ce changement par le bas, de cette politique un peu préfigurative, il y avait la mise en place, par exemple, de jardins potagers qu'on a repérés un peu partout en France pour subvenir à ses propres besoins, mais aussi rendre accessible à un très bas prix. Des aliments cultivés bio, locaux, ce qui est une aspiration, on l'a vu dans le mouvement, des classes populaires aussi, mais qui était absolument inaccessible jusqu'alors. Donc voilà, c'est ce type d'actions-là qui ont été menées. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit sur les syndicats et sur le rapport très critique vis-à-vis des institutions, il y avait dans le mouvement des Gilets jaunes une part significative de personnes qui ont appartenu à des partis ou à des syndicats, mais qui s'estimaient trahis par leur propre structure. Et ce mouvement-là, il a été un moment de réenchantement pour ces militants déçus. Et ça a conduit d'ailleurs à des expériences locales, notamment aux municipales, de constitution de listes ou autres.
Sur franceinter.fr, Catherine nous dit « Le problème n'est-il pas que les politiques sont des professionnels dont l'objectif est d'être réélus? Ne faudrait-il pas limiter le nombre de réélections possibles ?» Michel nous dit « N'y a-t-il pas chez les citoyens l'illusion que l'État est là pour faire le bonheur des gens ?» Et enfin, Davoust qui nous demande « Pourquoi n'évoque-t-on jamais une des propositions de la Commune de Paris sur les mandats attribués aux députés qui pourraient être révoqués en cas de non-respect des 10 mandats ?» En tout cas, pour éviter cette désaffectation, notamment lors des élections, on l'a encore vu pendant les régionales, il faut de toute façon inventer de nouvelles formes, Guillaume Gourgues.
Oui, alors l'invention de nouvelles formes et la réforme des institutions. Donc sur la Commune de Paris, je me permettrai de laisser Ludivine Bantini, bien sûr, nous éclairer.
Je crois que malheureusement, elle n'aura pas le temps parce que même vous, il vous reste que 30 secondes.
Alors, en 30 secondes, j'attire juste l'attention sur quelque chose qui est vraiment... Les constats sont partagés, on va dire, entre les couches de la population. Nous, on avait mené une enquête où on demandait à des gens très différents de nous parler de la démocratie. Et ce qu'on a constaté, c'est que les constats sur le fait que les partis politiques ne fonctionnent pas, que les institutions ne vont pas, que la démocratie représentative ne remplit plus sa mission, finalement, d'autodétermination collective, ces constats sont très partagés. Par contre, les leçons politiques qu'on tire de ces constats, ils ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'ampleur d'une forme de lutte des classes autour de ces solutions, avec des gens qui, pour qui le système fonctionne bien et qui aspirent peut-être et sûrement à des formes plus autoritaires, plus expertes de pouvoir. Vous savez, on ne cesse de comparer.
On arrive vraiment à la fin de l'émission,
l'État à une entreprise, et donc qui se trouvent à l'aise là-dessus, et d'autres qui ne s'y retrouvent pas.
Ben merci en tout cas, le débat évidemment mériterait plusieurs heures. Merci en tous les cas, à tous les quatre d'avoir été en direct avec tout le débat de midi. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.